Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 6, deuxième partie. Nous continuons avec Émilie Flamand et Dominique Montet ce podcast donc sur nos devoirs de vacances. Nous nous sommes chacun confiés des séries à regarder. Dans la première partie de ce podcast, Dominique nous a parlé de Clara Scheller, Émilie de Fais pas ci, fais pas ça, et moi-même de Spooks, et nous allons maintenant aborder les trois autres séries que nous avons regardées cet été pendant nos vacances. On enchaîne avec une série que j'avais proposée à Dominique de regarder.
Après les gonzesses.
Après lui avoir fait regarder une série de nana avec le deuxième personnage principal, un gay. J'avais décidé d'être sadique jusqu'au bout. Et de lui faire regarder la première saison de Queer as Folk. Version anglaise, évidemment, puisque nous sommes au village et que de toute façon nous n'allons pas.
Il n'y en a qu'une qui existe,
voilà.
N'est-ce pas ?
Exactement, Émilie a tout dit. Pourquoi j'ai voulu lui faire regarder Queer as Folk ? Eh bien, écoutez, en deux mots, c'est très simple. Parce que pour moi, Queer as Folk, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est une série à l'écriture sublime. Et voilà, j'avais une question que je me posais qui était est-ce que Queer as Folk est pour moi un chef-d'œuvre uniquement parce que c'est une série qui parle de personnages gays et que je le suis moi-même et que du coup je suis dans un processus d'identification primaire auquel j'ai moins l'habitude et que rien qu'à cause de ça j'adore cette série en la surévaluant, ou est-ce que non, je me trompe pas et que c'est bien un petit chef-d'œuvre de Russell T. Davis et que cette série est vraiment voilà, autant de qualité que ce que je lui prêtais et je pensais sérieusement qu'en proposant à Dominique de la regarder, j'aurais un bon élément de réponse à cette question. Alors, Dominique...
Roulement de tambour.
Qu'as-tu pensé de Queer as Folk ? Vas-tu détruire mes rêves ou pas ?
Non, c'est très très bien. Queer as Folk, c'est vraiment une très très bonne série. Petit schéma, j'ai mis 2 mois à voir Clara Scheller, j'ai mis 3 semaines à voir Queer as Folk. Avec l'emploi du temps que j'ai, c'est bien, c'est rapide. Les personnages sont très intéressants, très touchants. On n'est jamais mis de côté, en fait. C'est la grande qualité de la série. En n'étant pas gay, on n'est pas mis de côté parce que ce qu'ils vivent, au-delà de leur sexualité, les événements de leur vie qu'ils expérimentent, bah, on les a plus ou moins déjà vécus. Ça résonne qu'on soit gay ou hétéro. Ça fonctionne à beaucoup de niveaux. J'ai adoré détester le personnage de Stuart, qui est donc un gay qui, lui, profite de la vie, profite des autres, ne s'attache pas, a toujours un rapport, comment dire, de profiter des gens autour de lui, sans vraiment s'en rendre compte. Mais,
le jouisseur
dans toute sa splendeur, qui est donc interprété par, je ne vais plus me souvenir de son nom...
Eden Gillan,
voilà, qui jouait aussi dans The Wire, un rôle tout aussi exceptionnel, joué tout aussi grandiosement, mais à milieu. Le personnage de Nathan, c'est l'éternel ami qui est plus ou moins amoureux de Stuart,
de Vince,
sans vraiment se l'avouer, qui regarde de la SF chez lui. Enfin voilà quoi, l'amoureux transi qui se réfugie dans Doctor Who. Enfin c'est voilà, ça parle à tout le monde. Et il y a donc le personnage de Nathan qui est un jeune coq qui s'éveille à la sexualité aux côtés de Stuart, qui s'éveille à la vie de la nuit, alors en l'occurrence à la vie gay, mais voilà, cette envie de transcender le statut de, je crois qu'il est lycéen, quelque chose comme ça. Il a 15 ans, quoi. Cette envie d'aller avec les adultes, de vivre la vie, enfin ça, c'est quelque chose qu'on a connu aussi, donc c'est quelque chose qui, voilà, bizarrement, j'étais beaucoup plus en identification sur Queer as Folk que sur Clara Scheller. Mais c'est à mille lieues. Et c'est plus...
pas sur la même gamme.
Hein, c'était pas du tout sur la même gamme. Et t'es pas dans le même terreau créatif non plus. T'es en Angleterre.
Oui, hein. Voilà, tu peux pas. Hein. On en est pas à ce stade-là.
C'est bourré de petites scènes superbes, des rapports avec les parents que j'ai trouvé mais superbement touchants. Un petit bémol sur le fait que c'est toujours les mères qui réagissent beaucoup mieux à l'homosexualité de leur enfant que les pères. Bon, après, je ne suis pas expert sur la question, je ne sais pas comment ça se passe.
Beaucoup comme ça.
Voilà. Mmh. Bon, bah voilà. Je pensais aussi que ce n'était pas non plus trop éloigné de la vérité. Il y a une scène formidable où donc la mère de Nathan, donc celui qui a 15 ans, range la chambre de son fils, tombe sur 2-3 revues porno gays, et puis après finit par tomber sur un dessin réalisé par son fils d'un homme nu avec un sexe démesuré. Et dans la scène suivante, on se dit, elle va ruer dans les brancards, elle va le mettre devant le fait accompli. Et non, pas du tout. C'est qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Et j'ai trouvé ça super, super attendrissant et touchant. Et l'évolution du personnage de la mère derrière et du même acabit, on sent qu'elle a envie de faire partie de la vie de son fils, qu'elle ne sait pas trop comment faire. Lui, il a une réaction très adolescente, très primaire. Elle est forcément contre moi, elle n'acceptera pas. Enfin, c'est une série très riche et vraiment et puis très bien écrite. Moi, ça m'a un peu, j'étais pas fâché, mais ça m'a un peu réconcilié avec Russell T. Davis de voir ce qu'il était capable de faire avec une histoire un peu moins abracadabrante et beaucoup plus terre à terre.
C'est ça, en parlant que de la vie des gens sans grands enjeux.
Exactement. Ouais, là, on sent que ça fonctionne bien. Après, d'un point de vue structurel, j'ai eu un rapport un petit peu bizarre, c'est que bon, déjà. J'ai pas aimé du tout le gimmick visuel de la première du premier épisode avec les apartés sur un fond coloré absolument immonde où il y a des personnages qui expliquent
qui parlent face caméra.
On
sent que c'est des interviews faites plusieurs mois après, ils se remémorent les événements.
Et ça m'a un petit peu c'est le seul point négatif. Heureusement, ça ne revient pas du tout de la série. Et j'ai eu une petite sensation étrange, c'est à la fin du quatrième épisode, je crois, j'avais l'impression de voir une fin de saison et de redémarrer un petit peu comme si les événements prenaient place 3 semaines plus tard. Et du coup, j'avais un peu l'impression de voir la saison 1 et la saison 2, ce qui n'était pas le cas. Mais en dehors de ça, après, non, ça fonctionne très très bien. Alors, pour la petite histoire, évitez d'enchaîner un épisode de Queer as Folk avec un épisode de Sons of Anarchy, comme moi j'ai pu faire, parce que voir cet acteur dans deux rôles, mais qui n'ont strictement rien à voir, c'est un choc visuel déconseillé.
Puisque donc le petit Nathan de 15 ans qui découvrait la sexualité des gays dans Queer as Folk est devenu un biker barbu.
Je ne peux plus le prendre au sérieux, c'est horrible.
La preuve que c'est un acteur génial, ce qui est le cas d'ailleurs.
Complètement, oui. Parce qu'il donne vraiment deux partitions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon, déjà, en dehors de l'accent, parce qu'il a un accent anglais à couper au couteau, et quand il joue pour Sons of Anarchy, c'est bien l'accent ricain, même s'il a un petit peu de mal quand même. Mais bon. Et puis même, au niveau de la partition qu'il joue, ça n'a strictement rien à voir.
Ça m'avait frappé, parce que tu m'avais déjà, par rapport à la structure des épisodes dont tu parlais, tu m'en avais déjà parlé un peu plus tôt, et j'avais trouvé ça marrant, parce que tu as débusqué... Un secret de production, secret entre guillemets, de la série, qui était qu'au départ, en fait, c'était prévu qu'un autre scénariste que Russell T. Davis écrive les épisodes 5 et 6. Il devait écrire les 1 à 4 et ensuite les 7, 8. Finalement, ça s'est pas fait. Il a dû les prendre lui-même, mais trouvait-il que du coup, en termes d'intrigue, les 5 et 6 étaient prévus pour être un peu des stand-alone, quoi. Et bon, leur seul rôle intrinsèque dans l'intrigue, c'était de développer la relation entre Vince et l'Australien, parce que sinon, s'il y avait pas ces deux épisodes-là, elle n'aurait pas eu le temps de commencer, elle finissait déjà, c'était pas intéressant, donc il fallait ce moment de développement, mais en tout cas, il n'était pas censé écrire ces épisodes, et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une petite rupture dans la saison. Et puis les fameuses interviews en sur écran dont tu parlais, Russell T. Davis en parle aujourd'hui en disant qu'en fait, il les a placés là que parce que l'épisode 1 lui fournissait pas de cliffhanger dans sa structure. Les deux personnages ramènent Nathan au lycée, ouais. Et l'histoire pourrait très bien s'arrêter là, en fait. Ça pourrait être la fin définitive du truc.
Ça m'aurait pas choqué.
Qu'il fallait prouver aux gens que à la fin de cet épisode là il allait se passer d'autres trucs, ouais. et donc Nathan finit en interview en disant 6 mois plus tard Stuart me suppliait de rester. Avec cette anomalie assez bizarre, qui est que dans le coffret DVD français, alors l'édition DVD, enfin je suis désolé pour les gens qui l'ont fait, hein, mais l'édition en DVD française de Queer as Folk, qui a été un cauchemar du début jusqu'à la fin. À l'époque, la série est sortie en DVD individuel avec deux épisodes de 30 minutes par DVD, donc payer 25€ le DVD d'une heure. C'est un peu too much quand même, quoi. Et donc là, je sais pas si c'était déjà depuis cette époque, et maintenant il y a un nouveau coffret qui regroupe tout. Et la scène finale de l'épisode 1 où il y a ce cliffhanger, elle est collée au début de l'épisode 2, ce qui veut absolument rien dire. Enfin,
ah, bon, oui.
C'est un peu n'importe quoi. Émilie, tu as le même avis que nous sur Queer as Folk ?
J'ai pas vu Queer as Folk.
Tu n'as jamais vu Queer as Folk ? Je savais pas.
J'ai vu des bribes de Queer as Folk, j'ai un peu. Vaguement, j'arrivais à peu près à suivre parce que j'avais lu des choses dessus, donc au niveau des persos, etc., j'arrivais à suivre à peu près ce que vous disiez, mais j'ai pas suivi la série en elle-même. Donc voilà, ce sera pour l'année prochaine.
Je la conseille chaudement.
Validé par Dominique, ce qui prouve que
même de qualité.
Mais non, c'est important, ouais. Ça prouve voilà, que c'est pas. Je suis sûr qu'énormément de gens. On n'a jamais regardé Queer as Folk
en se disant
bah, c'est quand même un peu une série pour les gays, quoi. Et ben, vous avez la preuve que c'est pas le cas. Et moi, je l'ai aussi, je suis assez content. Et oui, je vais glisser ça, enfin, 3615 My Life, je suis désolé. cet été, en parallèle, j'ai fait voir la série à une de mes collègues qui est psychologue, en fait. Et c'était assez intéressant de savoir ce qu'elle en a pensé. Elle a aussi adoré la série et elle a adoré la qualité et la finesse de la psychologie des personnages,
oui.
De leur évolution, de la part de non-dit qu'il y a et dont la manière ça drive leur caractérisation, leurs actions, etc. Il a vraiment la cohérence psychologique absolue de ces personnages. Et voilà, moi c'est pour moi un trait essentiel de l'écriture de Russell T. Davis, la qualité de la psychologie de ces personnages et leur humanité, voilà, qui pour moi me frappe toujours autant, quoi. Et qui se voit vachement quand on voit, et notamment on l'a vu dans Torchwood, genre de choses,
oui.
Du Russell T. Davis plus écrit par Russell T. Davis, ça peut vite virer au n'importe quoi. Et on voit que lui, il a une patte. En fait, il est très fort pour installer des caricatures, mais c'est pas le mot, des archétypes.
Ouais.
Et en fait creuser ces archétypes ensuite et les tourner et développer leur profondeur, leur finesse, etc., mais en partant d'archétypes. Comme par exemple il a fait avec Torchwood, il écrit le pilote et il refile ça à d'autres gens, il a tendance à plus rester que les archétypes, en fait.
Ouais.
Tu perds cette finesse,
voilà. Bon, et ben ensuite on va enchaîner. Dominique, tu avais proposé à Émilie de regarder Spaced.
Si t'as pas aimé, je vais me fâcher, hein.
Non, j'ai aimé.
Alors
ça
pourquoi tu voulais qu'elle regarde cette série ?
Non, parce que c'est Spaced, c'est un petit peu un monument de la télévision anglaise. Ça a duré 2 saisons, 2 fois 7 épisodes. C'est un petit bijou d'humour, donc créé par Simon Pegg et Nick Frost.
Jessica
Stevenson, ouais, enfin qui a changé de nom depuis d'ailleurs. C'est Heinz.
Ouais.
C'est marié. Quel dommage. Et donc, c'est même plus que... Enfin, c'est un élément de pop culture en Angleterre.
C'est un ovni, de toute façon.
Et c'est un ovni complet. C'est très chargé, justement, en pop culture. Et c'est drôle à mourir. Et donc, voilà. J'ai pas du tout de pression. Ça va, t'as aimé ?
Non. Dominique, s'il te plaît, enlève ce couteau de la table. Non, oui, c'est un truc auquel... J'adore Shaun of the Dead. Moi, j'avais vu.
Ils ont réalisé Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Ils ont un autre film qui sort. Donc
bientôt, Pilgrim. Voilà. Là, c'est beaucoup plus le duo à chaque fois sur Shaun of the Dead. C'est vraiment Simon Pegg, Nick Frost.
Ouais.
Sur Space, donc c'était Simon Pegg et Jessica
Stevenson.
Voilà.
Heinz.
Qui sont les deux personnages principaux. Donc, juste pour resituer, le concept de départ, c'est un mec dessinateur de comics.
Raté
en devenir un jour, on va tourner ça comme ça.
Magnifique cette expression.
Super,
en devenir un jour, qui
je la réutilise,
voilà, qui vient de se faire jeter par sa nénette depuis 5 ans et donc se retrouve à la rue et qui en cherche un appart. Et en même temps, il y a cette journaliste qui a
en devenir.
C'est même plus en devenir, c'est cette journaliste qui a une peur panique. Dans un sens d'écrire une ligne, vu que dès qu'elle arrive devant sa machine à écrire, elle s'enfuit. en trouvant autre chose, ou elle s'endort.
Ou elle s'endort.
Donc il y a deux possibilités. Ils se retrouvent tous les deux comme deux blaireaux à essayer de trouver un super appart, parce que forcément, entre l'autre qui est dans un squat chelou, sombre et glauque, et le dernier qui vient de se faire jeter, il faut bien qu'ils trouvent. Ils ont, bien sûr, c'est Londres, hein, tout le monde connaît les problèmes pour se loger à Londres, et ils se retrouvent à devoir avoir un appart génial, potentiellement à louer, mais où ils doivent... c'est pour un couple, ils veulent absolument un couple dans l'appart, donc ils se font passer pour un couple... pour avoir cet appart, et c'est comme ça que commence la colocation et donc la série.
Ce qui pourrait être un prémisse de très mauvaise sitcom. Hein,
ouais, sauf qu'en fait, on n'en a rien à foutre dans un sens que ce soit.
Mais complètement.
Faux couple, c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous commencez avec ça, mais tout compte fait, c'est plus sujet à la blague et à des scènes très comiques. C'est-à-dire que tout cet aspect, comment ils en arrivent à faire ça, c'est traité en... À chaque fois, on les voit arriver à la même table de café. Ils se connaissent pas au départ, mais comme il y a toujours du monde, ils se retrouvent à deux en face l'un de l'autre, en train de faire leurs annonces, et ainsi de suite. Ils arrivent dans cette maison qui... C'est propre, il y a deux chambres, c'est décent. Enfin, limite, voilà, c'est le... Ils viennent de tellement de maisons hantées, on a l'impression que c'est génial, ils en peuvent plus, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'avoir. Et en même temps, c'est un truc de barjot, cette baraque. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que... C'est une galerie de portraits. Donc il y a ces deux persos-là qui déjà ont leur dose. Hein, faut l'admettre.
Oui, ils sont pas nets.
On va revenir sur eux après, mais qui ont derrière à côté un voisin en dessous qui est Brian. Alors comment vous expliquez Brian ? Ne cherchez pas Brian dans la kitchen.
C'est un artiste.
Voilà, Brian qui est focalisé sur la douleur.
Oui, je me
la peur.
Voilà.
Enfin, des trucs comme ça. Enfin, il a une espèce de mime. Il y a un gimmick visuel. Et à chaque fois qu'on demande à Brian ce qu'il fait, quel genre d'artiste c'est, on revient sur quatre sentiments qu'on explicite en image. Et c'est un truc absolument bizarre et violent visuellement qui, au début, vous fait dire que c'est des cinglés totalement. Donc, ça, c'est Brian. Il y a aussi leur proprio qui est. Alors, on a l'impression qu'il est sorti d'Absolutely Fabulous, en fait. Moi,
ouais, c'est un peu ça.
À ça.
Ouais, elle a une mimique. Pour ceux qui connaissent la comédienne, alors je n'ai pas les noms, je vous réfère à ma critique de Space,
voilà.
Il y a je ne sais pas combien de temps. Sa tête normale, ce n'est pas du tout celle qu'elle a dans la série.
Là, si vous voulez, vous prenez un croisement entre Absolutely Fabulous et la famille Adams. C'est un peu ça. Et en plus, vous lui collez dans chaque main un verre de rouge et dans chaque main une clope en plus du verre de rouge. Et littéralement, il y a des scènes où elle boit d'un côté, elle boit de l'autre et ainsi de suite. Et elle est toujours en train de picoler. Elle a cette relation bizarre où une fois, dans une nuit de désespoir, Brian l'est monté, ils ont couché ensemble et depuis, elle fait des clins d'œil à Brian qui essaie de s'enfuir tant qu'il peut.
Il y a des situations de gêne absolument géniales. Ils sont tous les deux dans la même pièce et t'as Brian qui regarde sur le côté, légèrement gêné, elle qui appuie.
Sauver elle, voilà, qui est en train de lui faire, mais si elle pouvait lui foutre les seins sous le nez décemment, elle le ferait. Donc il y a ces deux personnes-là qui sont dans la maison. Donc on se demande vraiment au bout d'un moment, mais punaise, mais qu'est-ce qui les a atterrés dans cette baraque? Parce que franchement, c'est des cas. Et non, parce qu'ils sont tous les deux de toute façon barjots. Entre elle, qui donc n'arrive pas à écrire quelque chose, qui a un côté très mais non, mais tout va bien, mais bien sûr, elle va en Inde, elle va. Où elle trouve ça absolument génial, elle revient, il y a des histoires absolument... Il y a des côtés grotesques dans toutes leurs histoires, dans tous leurs personnages. Elle a sa copine qui est censée être dans la mode, tout compte fait, elle travaille dans un pressing. Donc oui, elle est dans la mode, dans un sens. L'autre, Simon Pegg, qui quand même réussit à se faire virer parce qu'il n'est pas d'accord avec son patron dans la boutique de comics sur la menace fantôme. Donc sur Star Wars, et c'est à cause de ça qu'il y a un conflit. Il y a même une scène où il est déguisé en Jedi devant un bûcher, hein, quand même. Il a son meilleur ami qui est donc joué par Nick Frost, qui est un soldat qui s'est fait virer parce que il a piqué un tank dans un délire Seconde Guerre mondiale ou je sais pas. Enfin, c'est un peu. Et alors lui en plus, c'est vraiment le mec. Vous voyez, limite Bowling for Columbine, les moments où ils vont voir les fadas d'armes, etc. Bah, c'est pareil. C'est l'archétype mais en Angleterre. Donc il est toujours. Vous imaginez le bon mec un peu rondelé en tenue militaire
avec
la
moustache.
C'est terrible.
Très important.
La moustache est primordiale. Qui se retrouve à toujours avoir des armes ou des machins. Et ils arrivent, hein, ils foutent des tanks, il y a de tout dans la série. Et c'est là que ça devient absolument bizarre. On a déjà cette galerie de personnages, on a ce concept initial qui sert de temps en temps parce que bah, y a une ou deux intrigues.
Juste pour faire.
Voilà, pour donner un prétexte à d'autres choses. Mais derrière, il y a de tout. Vous n'aurez jamais un truc comme ça en France. Enfin, j'imagine pas actuellement quelque chose comme ça en France, vu ce qu'on a pour le moment. C'est pas possible. Vous pourrez pas avoir des références. Il parodie des scènes de Matrix, parce qu'il faut recadrer, donc c'était 99-2000, quoi, à peu près, les saisons. Hein.
C'est 2001. À peu près ça, oui.
Je crois que la première était en 99, la deuxième doit être vers 2001. Ouais. Parce que la première saison a déjà quelques références marquées, mais alors la saison 2, c'est que ça. Hein. Le mec, il s'est éclaté. Hein. Il a pris tous ses films qu'il aimait. Il y a du Star Wars, il y a du...
Il y a du X-Files, parce que Simon Pegg dort avec une figurine de Scully.
À un moment, il fait une prière devant un poster de Buffy. Alors, moi qui suis absolument Joss Whedon étant mon dieu, mais j'ai trouvé ça énorme. Donc, en fait, c'est une série, comment vous dire, ça dépasse le stade du geek. C'est-à-dire qu'il y a les séries de geeks où on dit, ouais, voilà, machin, le mec devant son ordi et autres. Là,
Ça parle d'une génération. Si tu parlais de génération, c'est ça.
C'est même plus loin que ça. C'est quasiment que toute cette culture n'est même plus un prétexte ou une passion. C'est leur vie. C'est leur mode de vie.
Contrairement à la tradition, enfin à ce qui est devenu la tradition du geek marketing, notamment dans les séries US, où on plaque un geek parmi les personnages pour capter le public geek, mais vraiment de façon limite cynique, quoi. Là, les auteurs sont encore plus geeks que les gens qui vont les regarder.
C'est geek par essence, en fait, il y a une
vraie sincérité.
C'est-à-dire que quand on les voit qui commencent à faire des scènes de fusillade de Matrix avec leurs mains comme pistolet, mais alors avec tout, hein, derrière ils te sortent le lance-roquette, ils te sortent tout comme ça. Hein. C'est impressionnant. Parce qu'en plus, on y est, parce qu'en plus, on le voit. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être très poussé en culture geek pour repérer les références. Enfin, c'est absolument énorme comme machin. Quand on les voit arriver, elle revient de l'aéroport donc, où elle est allée en Inde, elle tombe sur The Master, qui est en guest dedans... pour faire un pauvre touriste qu'elle va bassiner pendant 2 heures à l'aéroport et qui doit transporter quelque chose, vu qu'elle se rétame à un moment, ils échangent le sac. Elle se retrouve avec deux Gus, deux agents Smith à ses trousses, mais ils ont tout, ils ont l'oreillette, le costard, les petits réflexes, ils enlèvent les lunettes fake. C'est tellement énorme, c'est énorme. Le premier épisode, moi j'ai eu l'impression de regarder Matrix en cheap. C'est ça, c'est le mec qui limite vous filez un fan son caméscope, il se refait Matrix dans son côté. Et c'est que des hommages comme ça tout le long de la saison.
En fait, la première saison, ils l'ont filmé d'un trait avec leurs moyens. Quoi.
Voilà. Mais la 2, tu sens que le côté, ça a marché, il a pu faire ce qu'il voulait et il s'est lâché. Quoi.
Ah, complètement, oui.
Mais la fin, on a un générique de Star Wars quand même à un moment. Mais le vrai générique.
L'avant-dernier épisode se termine sur le générique de Star Wars.
Tu comprends même pas. Enfin, moi, pourtant, je connais Star Wars plutôt bien. Tu les vois, donc il y a une histoire avec il y a un chien à un moment, il y a la proprio, enfin bref, ils ont fini par révéler à la proprio que c'était un mensonge, elle a très mal vécu, elle fait la gueule, machin, ils la recherchent. Tu vois les autres partir dans leur camionnette, bien sûr, c'est la camionnette de Mike, leur ami militaire, machin, donc camouflé, les camionnettes. Tu les vois partir en aisant au talkie-walkie pour dire que c'est bon, ils attaquaient, machin, donc Brian et Mike, et t'as les deux autres à la fenêtre. Et là, il la prend avec un jeu de lumière, et voilà, c'est tout. C'est le générique de Star Wars qui part, et t'as vraiment l'impression de voir les mises en scène, mais c'est impressionnant. Donc c'est juste un ovni. Comment dire ? Il faut pas le regarder comme une série pour en elle-même, pour l'évolution de son perso purement, on va pas s'amuser sur la psychanalyse.
Non.
Vous allez juste vous bidonner quoi, devant ce truc-là. C'est pas du sketch, et c'est un moment de vie. C'est une façon de voir la vie naturelle. C'est-à-dire que pour lui, c'est même pas on pousse le vice. C'est vraiment, vous voyez une bande de potes fada d'un truc, et ben voilà, vous faites des blagues entre vous toujours sur le même film. Ça peut être La Cité de la Peur pour certains, ça peut être. Et ben c'est pareil, sauf que lui, il en a 2-3 comme ça et il se les ressort à chaque fois. Voilà.
Bon bilan.
Oui, ça va, c'est bon. je donnerai un 8 sur 10.
Je pourrai revenir la prochaine fois.
C'est bon.
Allez, et pour conclure ce podcast, Dominique m'avait proposé de regarder Misfits. Pourquoi ça, Dominique ?
Parce que c'est vachement bien. La saison 2 a été diffusée à partir du 11 novembre et la saison 1 à partir du 18, je crois, sur une chaîne française, donc du réseau Orange, je ne sais pas laquelle. Alors, c'est une série de super-héros avec des adolescents. et c'est vraiment très très bien. Sullivan, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Alors, Misfits, la série a été très très agréable à voir, j'ai vu les épisodes très vite et très facilement, et ça a été vraiment sympa. Les personnages sont vraiment bien posés. C'est pareil, on part vraiment d'archétypes, de figures un peu tracées à gros traits au début, mais on les développe, on les creuse, etc. Et ça devient vraiment intéressant. L'interprétation des cinq principaux est vraiment excellente, même si moi, personnellement, je mettrais un tout petit bémol, mais un tout petit, hein, mais à l'acteur, pratiquement Nathan. Principal, à celui qui joue Nathan, qui, pour moi, il y a... 4 ou 5 fois dans la saison où je pense que le réalisateur devrait lui dire de redescendre d'un cran.
Ouais.
Je trouve qu'il y a des fois où il est, enfin ouais, il y a 4-5 fois où il est un peu over the top, quoi. Mais bon, enfin ça passe très bien et il est juste, quoi. C'est juste que des fois dans des moments de comédie pure,
ouais.
il pousse le truc quand même un peu loin dans les mimiques et les grimaces notamment. Et voilà. Et alors, oui, et visuellement, j'ai trouvé la série sublime. J'ai même pas été du tout dérangé par la représentation de parce que donc ce sont 5 ados qui font des travaux d'intérêt général, enfin 5 ados, 5 jeunes adultes plutôt,
ouais, voilà.
qui font des travaux d'intérêt général et il y a un orage étrange et bizarre qui passe par là et ils sont pris dans cet orage et c'est là qu'ils développent leurs super pouvoirs qui sont en fait issus des émotions qu'ils ressentaient à ce moment-là.
Ouais.
Et donc c'est le moment où ils acquièrent leur super pouvoir et représenté à l'écran par quelque chose d'un peu un peu spécial et un peu expérimental.
Ouais.
Sauf que moi j'ai pas trouvé ça tellement. Enfin, la série elle intègre complètement sa lecture second degré en fait.
Mmh.
Et donc voilà. Enfin oui, si on est. Enfin si c'était dans un blockbuster hollywoodien, ce serait cheap. Et bizarre parce que ce serait un blockbuster hollywoodien, mais on est dans Misfits et on est très conscient d'être dans Misfits et tout, et que c'est une série anglaise, enfin. Et donc, du coup, c'est juste un moment imagé qui est finalement plutôt joli, même si. Moi, c'est passé.
Ça passe peut-être mieux aussi parce que tu as vu la série dans la continuité derrière, tandis que quand tu as cette scène qui est en début tout de suite de la série et que tu vois les épisodes 1-1, etc., tu n'as peut-être pas cette notion non plus d'esthétique globale de la série qui lui donne...
Sans doute.
Qui justifie,
voilà. C'est-à-dire qu'après, t'as un petit côté... J'ai vu les 6 épisodes d'un trait, je dirais que c'est le seul point un peu étrange de la série, c'est que ça fait vraiment, vraiment, vraiment cheap quand même.
Moi, le côté cheap, surtout, c'est que, à part les 5 personnes en question, t'en vois pas, enfin, les quelques protagonistes de ce moment-là, il n'y a personne dans la ville, quoi, c'est au départ.
Ah, c'est normal, t'es centré sur cet endroit-là. Après, ça traduit bien la banlieue anglaise, quoi. C'est...
Ouais,
ça m'a pas choqué plus.
Moi, le côté, on est dans une ville de province et en plus, on est dans un centre spécialisé pour les community services, c'est-à-dire que les gens qui sont là, c'est que des gens qui ont été condamnés des travaux d'intérêt général.
C'est normal que ça soit un peu
donc,
à part.
Ça m'étonne pas qu'ils soient à part et qu'il y a personne qui s'aventure trop là, ça m'a pas gêné. Toujours est-il que oui, enfin, visuellement, j'ai trouvé la série mais vraiment splendide. Mais plusieurs fois en voyant ça, je me suis dit, mais quand est-ce que les en France ils vont comprendre que l'étalonnage numérique existe,
oui.
et qu'on peut faire des trucs étourdissants désormais avec 3 francs 6 sous, quoi. Et nous on se retrouve, enfin on a toujours, y compris en prime time, des trucs qui ont l'air d'avoir été filmés à la vidéo sous un néon de supermarché Leclerc. C'est juste atroce, quoi. Et enfin, ouais. Et voilà, et c'est, enfin, honnêtement, Misfits, ça doit pas avoir des tonnes de budget, quoi. Je pense pas. La saison 5 de Doctor Who, ça a du budget, mais ça, y a beaucoup d'argent qui passe dans autre chose. Et, voilà. Et la qualité visuelle qu'ils arrivent à avoir en traitant l'image correctement en post-prod.
Oui.
Alors c'est pareil, on retrouve beaucoup dans Misfits ce truc dont les Anglais sont absolument dingues en ce moment. C'est flou.
Oui. En bord d'écran.
En bord d'écran, dont ils abusent quelquefois un petit peu.
Un petit peu.
Et,
ouais.
et il faudrait qu'ils fassent plus gaffe, parce que des fois, en fait, le principe sert à isoler dans le plan la partie où ils veulent que l'œil s'attache, notamment sur un plan large. Et ils sont capables de foutre du flou partout, sauf dans une forme qu'ils ont découpée et où c'est pas flou, et donc du coup, notre regard se porte là. Sauf que là où des fois ça peut être vraiment. La limite de l'outil, si on l'utilise pas bien, c'est quand vous avez un personnage en arrière-plan qui se balade et qui traverse le champ pas flou. Et là, on se rend compte que le flou, il a rien à voir avec la focale utilisée, qu'il est purement collé en post-prod. Et que du coup, le personnage, il se balade toujours sur la même ligne de plan, mais d'un seul coup, il devient net. Et puis, pouf, il retourne dans le flou derrière.
Ouais, c'est un effet qui a tendance à m'énerver. Ça m'énervait déjà sur Survivors.
Oui, mais alors, moi, je trouve ça...
Plus sur Survivors encore.
Moi, je trouve ça vraiment très beau. Et aussi bien dans Survivor que dans Misfits, j'aime aussi parce que je trouve que ça sert le propos d'une communauté isolée dans une bulle. Ouais. Et tout le reste du monde, du coup, est inaccessible et nous est interdit et quelque part inconnu. Et notamment, enfin aussi en termes visuels, il y a un traitement des couleurs qui est formidable et qui, en plus, n'est pas le traitement des couleurs génériques qu'on a en ce moment et que j'ai un peu critiqué, notamment pour la dernière saison de Doctor Who, où tous les acteurs, y compris Matt Smith, qui est aussi pâle que moi, et je vous assure que je suis très pâle, est orange dans les épisodes. Il est bronzé, on dirait qu'il vient de passer 6 mois aux Canaries. Et il est systématiquement filmé sur du ciel ou alors des murs bleu-vert, parce que le orange contre cette couleur-là, ça détache la figure
la façon Bruckheimer de voir la vie de Laurent.
Exactement. Vous voyez ça dans Transformers, hein, ce genre de choses. Et donc Misfits, c'est pas ça du tout. Toute la série dans une gamme colorétrique de brun, de gris et de beige, tirant quelquefois un peu sur le rose. C'est vraiment, vraiment, mais super beau, quoi. Donc voilà, je viens de faire 5 minutes sur les couleurs, mais moi ça m'a impressionné. Et ça m'évite aussi d'en arriver au point qui est que, au fur et à mesure du développement de la série, j'ai commencé à avoir un énorme problème avec Misfits, qui fait que je suis pas sûr que je vais tenir très longtemps sur la saison 2. Je m'explique. C'est vraiment super sympa, c'est agréable, on y revient, etc. Machin. J'ai un énorme problème moral, il n'y a pas d'autre mot, avec la série, avec son traitement de la violence. Le pitch de départ de la série, c'est que nos cinq personnages sont obligés de tuer leur surveillant parce que lui, il était en colère au moment de l'orage électromagnétique, donc son super pouvoir, c'est un peu de devenir une version un peu craignose de Hulk. Et donc, du coup, il manque de les tuer. Donc, il en tue un. Donc le sixième qui aurait pu, voilà, il en tue un, et donc les cinq sont en état de légitime défense, et donc il le tue. Mais comment faire accepter que c'est la légitime défense et expliquer aux policiers que l'orage magnétique a transformé le mec en incroyable Hulk, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, il décide de faire disparaître le corps et voilà. Donc et ça donne lieu à ce qui est un peu l'intrigue principale de la saison et qui effectivement, comme tu le pointais dans ta review qui a été publiée, c'est pas vraiment, enfin c'est une série de, enfin c'est une mini série de super héros mais qui utilise un canevas de
film noir,
de films noirs, ouais. Voilà, enfin est-ce qu'on va découvrir qu'ils sont coupables ou pas, sauf que ils ont pas voulu probablement volontairement être littéral par rapport à ça, autrement dit que ce soit un policier qui porte l'enquête, ce qui les force à introduire un personnage auquel je n'ai jamais cru à aucun moment,
la petite amie du surveillant,
qui est censée être la petite amie du surveillant qu'il n'avait jamais vu avant, mais dès que le surveillant meurt, elle vient se reprendre son boulot à sa place, pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Et puis elle complote dans le noir en prenant des airs mystérieux et en étant complètement improbable, puisque enfin son mec vient juste de mourir il y a une semaine, elle est très triste, mais elle est capable de monter des plans scabreux, de jouer la comédie, mais comme franchement De Niro n'a jamais été aussi bon, quoi. En collant des affiches, enfin voilà, c'est complètement improbable, c'est pas grave. Et si avec ça m'aurait pas gêné, je le pointe quand même parce que ce personnage-là, vraiment, j'y ai pas cru, quoi. Ouais. Toujours est-il que ça nous amène au développement, à la résolution de cette intrigue, qui est le moment où vraiment j'ai commencé à avoir un gros problème, qui est que pour éliminer cette menace-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, les scénaristes n'ont rien trouvé d'autre que de la faire tuer aussi. Sauf que là, on n'est plus en légitime défense. On n'est plus exactement dans le même problème. Ça m'embête d'autant plus que le personnage qui la tue est mon personnage préféré de la série.
D'accord.
Un personnage que j'ai trouvé formidable, l'acteur est incroyable, quoi. Alors c'est un espèce d'autiste, super rentré, super fermé, super peur des autres, de communiquer, de s'ouvrir, etc. Donc c'est un peu le freak qui s'est fait. voilà, qui a été là, le souffre-douleur de tout le monde, on imagine, depuis qu'il est né, quoi. Et un peu artiste, qui tourne des films. Enfin, voilà. Et le personnage est vraiment chouette. J'avais super envie de le voir se développer au fil du temps.
Et t'as pas du tout aimé le développement.
Sauf que pour moi, ça coupe son développement. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de là, soit on fait comme si tout ça s'était pas passé. Et j'ai un problème. Surtout que, voilà, donc ça, c'est à l'épisode 5. Et à l'épisode 6, il retue encore quelqu'un d'autre qui les emmerde. Ils se ressortent une deuxième fois d'une histoire en tuant quelqu'un. Donc alors la première fois,
ça va finir par attirer l'œil.
La deuxième fois, j'ai vraiment un problème. Donc soit on traite ça et du coup, enfin le personnage il le sacrifie, je veux dire. Mm. Ça peut pas durer. Mm. Soit on passe ça sous un mouchoir blanc et on oublie que c'est quelqu'un qui a été de sang-froid. Alors la deuxième fois c'est plus ou moins un accident, mais enfin même la première, mais bon. Ça passe pas, quoi. Un espèce d'assassin de sang-froid. Alors, oui, ça peut être pour les protéger, etc., machin. Enfin, ça peut être intéressant, mais sauf que si on le traite correctement, ça devient ce qui définit le personnage tout jamais. Et on pourra pas avoir ce que moi j'avais envie de voir fondamentalement, qui est de voir ce personnage s'ouvrir, etc., machin. Soit on jette un mouchoir blanc et puis on va avoir un problème de cohérence absolue et de morale, puisque du coup, ils vont avoir, lui particulièrement, ils vont avoir tué déjà deux fois sans aucune véritable raison deux personnes et s'en être sorti et sans que ça leur pose de gros problèmes, quoi. Donc à quel point est-ce que ça va pas me couper de la série? Je ne sais pas. Je pense que j'exagère un petit peu en disant que je vais pas pouvoir voir la suite parce que j'ai quand même vraiment bien adhéré, bien accroché et que j'ai envie de savoir comment ils vont résoudre le cliffhanger de la première saison.
Oui.
Même si je crains le pire, je crains qu'ils résolvent ça en 32 secondes. La petite bande-annonce qu'ils ont foutue est assez grandiose. Et voilà. Et donc, mais vraiment au-delà de ça, des très bons personnages. Donc Nathan, ce grande gueule un peu lourdingue, qui est vraiment qui est vraiment bien. Alors, il est insupportablement attachant, enfin
voilà, oui, c'est assez space. C'est exactement ça.
Les deux filles elle est pas lesbienne en l'occurrence, mais elle pourrait, la bonne fille virile, la racaillette en survette.
J'adore sa façon de parler. C'est complètement improbable. Même un les accent. Autres, quand ils moi je me disais, c'est un accent de la campagne là-bas. Et les autres, mais d'où il vient ton accent?
Sérieusement.
Dans le premier épisode,
c'est imbuvable au départ.
Il faut vraiment s'habituer à.
Ah oui, oui.
Il faut prendre le coup.
À sa manière très particulière de parler l'anglais.
Si vous trouvez des sous-titres juste pour elle, prenez-les.
La fille hyper sexuée avec son pouvoir qui est son don, sa malédiction, qui amène à des scènes super réussies parce qu'elle développe une relation avec un des mecs et du coup elle qui est définie par le fait qu'elle couche tout le temps avec tout le monde pour que sa relation avec ce mec là soit spéciale, et ben il faut justement qu'il se touche plus. Et donc, ces scènes improbables où, pour trouver leur jouissance commune, ils se masturbent l'un l'autre face à face, debout. C'est des grands moments de n'importe quoi. Et donc, ce mec-là, c'est le cinquième personnage qui est. Alors, je l'aime bien dans sa relation, autrement, c'est celui sur lequel j'accroche le moins, sur lequel il y a moins de développement. Et j'ai trouvé l'épisode qui est centré sur lui très pénible.
Oui.
Notamment parce que c'est l'épisode générique où, au bout de maximum 10 minutes, vous pouvez vous-même écrire tout le reste de l'épisode, puisque c'est le standard d'épisode générique standard sur le mec qui peut réécrire le temps. Ah mais s'il le réécrit, ça va poser d'autres problèmes, hein, donc il est obligé de revenir. Hein.
Et si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas la musique qui est utilisée au début de la séquence, elle revient 10 fois ou 20 fois, et je n'en pouvais plus.
Pour moi, c'était clairement l'épisode plus faible de la saison. Oui. Alors j'ai lu d'autres gens qui pensaient exactement le contraire, donc comme quoi...
Il y a des retours en arrière.
Mais alors pour moi le truc c'est que si on refait un truc comme ça, que ça a été fait mille fois, ouais, vraiment avoir un truc spécial à dire, un twist particulier. Ouais. Et là c'est que les twists de d'habitude. Hein. Donc voilà, très dur. Enfin,
mais tout ça pour finir sur un statu quo. D'ailleurs.
Tout ça pour finir sur un statu quo qui était vachement prévisible. Ouais. Et en plus c'est dommage parce que toute la question de savoir quel est le pouvoir de Nathan. Et t'as un mystère intrigant tout au long de la saison. Et dans cet épisode il y a un indice tellement énorme. que ben, enfin moi ça m'a semblé évident quoi. Quand, mais comment t'as fait pour survivre? Oh ben je sais pas trop machin. Mmh. Ah ben oui, son pouvoir c'est que il est immortel, enfin qu'il a le pouvoir de survivre au truc. Et à partir de là, on le sait. Et tout l'épisode 6 est monté sur un suspense. Pour qu'on croie qu'il est mort, sauf que bah c'est un peu, enfin fallait pas vendre votre
spoiler.
Oh c'est bon, il y en a eu 36 depuis tout à l'heure.
Voilà, donc Misfits, série très sympathique. Je comprends pourquoi elle a plu à tout le monde. Elle m'a plu à moi aussi. Mais putain, faites gaffe à la manière dont vous gérez la violence. Et voilà, enfin ça m'a vraiment embêté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce podcast fleuve?
Punaise, c'était long. La prochaine fois, on se donnera un seul devoir par personne.
Hein. Ça fait beaucoup de devoirs.
Ouais.
Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie chaudement de nous avoir écoutés. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, j'espère que vous avez pu... voilà,
c'est dommage, on a gardé le meilleur pour la fin. En plus.
On vous mettra une timeline pour que vous puissiez zapper sur les morceaux directement que vous n'avez pas encore écoutés.
Exactement. C'est ce qu'on fera, mais sauf que ça vous apporte rien qu'on vous l'apprenne maintenant, ce que vous avez dit dans le podcast. Bon, allez, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés.
Bonne nuit à tous.
Dormez bien.
Joyeux Noël.
À très bientôt au village. Bonjour chez vous.